Nous sommes un peuple fier.
L'indépendance est un fait acquis.
Nous n'avons pas l'âme d'esclaves.
Des peuples entiers ont été vidés de leur culture.
Décolonisation dans le sourire.
Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
Décolonisation.
Et s'accélère la ronde des révoltes et des indépendances africaines.
Vous connaissez la dernière chanson à la mode ?
Indépendance, tcha-tcha, tous ouvriers. Petit paza, tcha-tcha, tout bakini.
Pierre Aski.
Pour comprendre le présent, plongeons-nous dans le passé. France Inter vous invite à découvrir ou redécouvrir les personnages historiques qui ont marqué un certain nombre de pays africains. Aujourd'hui, Robert Mugabe, premier dirigeant du Zimbabwe indépendant. Sur France Inter.
Down with the racist constitution, down with the dirty elections.
Pour nous accompagner dans ce voyage, dans le temps et dans l'espace, l'historien Hamzat Boukhari Yabara, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Début 1980, nous sommes en Rhodésie. La Rhodésie deviendra, dans quelques jours, le Zimbabwe indépendant. Un pays enclavé d'Afrique australe, juste au nord de l'Afrique du Sud. En 1980, je suis journaliste à l'agence France Presse, basée en Afrique australe. Cet épisode de décolonisation aura une saveur particulière, car l'auteur de ce récit a vécu certains des moments marquants. Ce jour-là, j'enquête sur les traces de Robert Mugabe. L'homme s'apprête à être élu à la tête du nouvel État après 13 années de guerre brutale. Lors de mon enquête, je me retrouve à la mission catholique de Kutama, où il a été élevé et a étudié. Un vieux jésuite irlandais se souvient évidemment de l'enfant qui a grandi sous la protection de l'institution religieuse. Il me lance avec un large sourire.
On a fait du bon boulot, n'est-ce pas ?
Cette remarque caustique d'un missionnaire au cœur de la savane d'Afrique australe résume l'énigme Mugabe. En 1980, Robert Mugabe est le chef de la principale armée de guérilla qui a mené une lutte sans merci. Il est radical, soutenu par la Chine maoïste. Mais il est aussi admiré par ses anciens maîtres jésuites et même par certains colons blancs du territoire qui s'accommodent de sa victoire. À 56 ans, il a tout pour être l'homme providentiel d'une nation meurtrie et divisée. Un pays qui a tant d'atouts pour devenir un paradis. Mais rien ne se passera comme prévu. Mugabe fera du Zimbabwe un enfer et, on le verra, terminera lui-même renversé par son armée pour s'être accroché trop longtemps au pouvoir. Robert Gabriel Mugabe naît en 1924 à Kutama, à l'ouest de la capitale. La capitale s'appelle à l'époque Salisbury. Le territoire dans lequel il voit le jour est devenu, un an plus tôt seulement, un protectorat britannique. Les 30 années précédentes, cette terre de savane au cœur de l'Afrique australe est sous l'autorité d'une société privée, la British South Africa Company. Son fondateur, Cecil Rhodes. Le territoire est naturellement nommé la Rhodésie. Cecil Rhodes est l'incarnation du colonialisme britannique.
Il y a moins d'un siècle ici, c'était la brousse. Jusqu'à ce que Cecil Rhodes vienne un jour de 1890 installer après une longue randonnée son campement sur cette colline qui maintenant domine Salisbury, capitale de la Rhodésie. Les Européens de Rhodésie, ce sont les pieds noirs des Britanniques. Ici, Babelwet s'appelle Manika Road. et à l'enseigne des boutiques, les noms n'ont pas tout à fait l'accent méditerranéen. Mais ce sont les mêmes visages, les mêmes gens, les mêmes réflexions, le même attachement aussi à la terre qu'ils ont créée de leurs mains.
Vous plaisez ici, vous aimez
beaucoup.
Ce pays.
Beaucoup.
C'est votre pays?
C'est mon pays maintenant. Je suis là depuis 1927. Et c'est mon pays. J'ai vécu ici plus que j'ai vécu n'importe où.
C'est dur sans doute de penser que peut-être un jour vous seriez obligé de quitter ce pays.
Oh, je crois pas. Ça n'arrivera pas.
C'est dans cet environnement que grandit Robert Mugabe. Il est pris sous l'aile protectrice des missionnaires. Son père, un charpentier, a abandonné la famille quand l'enfant avait 10 ans. Sa mère, fervente catholique, se tourne alors vers la mission. Un des prêtres anglo-irlandais a joué le rôle de père de substitution. Enfant, Robert est décrit comme timide, réservé. Il préfère la compagnie des livres à celle de ses camarades de brousse. Sa mère, dont il est très proche, est persuadé qu'il est promis à de grandes choses, qu'il est un don du ciel. Lorsque la nourriture vient à manquer, elle n'hésite pas à le favoriser aux dépens de ses frères et sœurs. Brillant, il est admis à 17 ans à l'université en Afrique du Sud voisine. Là-bas, ce n'est pas encore l'apartheid. Nous sommes en 1941 et le système de séparation totale entre blancs et noirs sera mis en place à partir de 1948. Mais les prémices sont déjà là. Mais c'est paradoxalement dans cet environnement de ségrégation que Robert Mugabe va se politiser. Fort Hare devait former les serviteurs du système colonial. L'université a éveillé la conscience de ceux qui allaient l'abattre. À Fort Hare, Mugabe étudie l'anglais et l'histoire. Puis il va poursuivre ses études en Afrique orientale. Il se destine à l'enseignement. D'abord en Rhodésie du Nord, la future Zambie, puis au Ghana, nouvellement indépendant. C'est là qu'il rencontre Sally, enseignante elle aussi. Il l'épouse en 1961, au moment où il décide de retourner en Rhodésie, alors que sa famille reste au Ghana. L'enfant de la mission catholique, parti en 1941, revient donc deux décennies plus tard. Il est totalement transformé. Il se proclame marxiste et plonge dans l'arène politique nationaliste. Il rejoint le vétéran de la lutte pour l'indépendance, Joshua Nkomo, leader d'un parti très vite interdit par les autorités blanches. Dans cette interview exceptionnelle à la télévision britannique, en 1962, Robert Mugabe explique sa conception du suffrage universel non racial. Chacun doit avoir des droits politiques complets, que vous soyez blanc ou noir, éduqué ou pas, riche ou pauvre. C'est pour cela que nous nous battons, pour obtenir pour notre peuple le principe « un homme, une voix ». En 1963, Mugabe se sent suffisamment sûr de lui pour créer son propre parti, l'Union nationale africaine pour le Zimbabwe, la ZANU. Nkomo, lui, est à la tête de l'Union populaire africaine pour le Zimbabwe, la ZAPU. Entre ces deux hommes et ces deux partis, la rivalité sera permanente, avec des périodes d'union jamais tout à fait sincères. Concurrence idéologique, Mugabe se tourne vers la Chine quand Nkomo reçoit le soutien des Soviétiques. Querelle personnelle entre deux hommes qui aspirent pourtant au même objectif. Et enfin, rivalité ethnique. Mugabe est issu de l'ethnie dominante, Shona, tandis que Nkomo trouve sa base au sein du peuple Ndebele, dans le sud-ouest du pays. En ce début des années 60, les autorités blanches ne tolèrent ni l'un ni l'autre. Robert Mugabe est arrêté en 1964 avec de nombreux autres cadres nationalistes. Il est enfermé sans jugement dans un camp de détention à la frontière entre la Rhodésie et le Mozambique. Il y restera plus de 10 ans. Le régime carcéral est inflexible. Il est doté d'une volonté de fer. Et même en détention, Robert Mugabe continue à se former. Il suit les cours par correspondance de plusieurs universités étrangères et obtient 6 diplômes supplémentaires. Il est sans doute le leader nationaliste le plus diplômé du continent. Mais pendant qu'il est derrière les barbelés de son camp, un événement majeur change la situation. Nous sommes en 1965. La population européenne blanche de Rhodésie compte 250 000 personnes dans un pays d'environ 4 millions d'habitants à l'époque. Elle menace de proclamer son indépendance unilatérale. Le Royaume-Uni veut décoloniser, comme partout ailleurs, en remettant le pouvoir à la majorité noire. Les Blancs, eux, veulent déclarer leur indépendance pour garder le pouvoir entre leurs seules mains.
Nous ne voulons pas d'un gouvernement de la majorité noire en Rhodésie.
L'homme qui dirige le gouvernement blanc s'appelle Ian Smith. Né en 1919 dans une famille d'immigrants britanniques dans la colonie privée de Rhodésie. Il est pilote dans la Royal Air Force pendant la guerre. Blessé, il a le visage refait. Alors que le vent de la décolonisation souffle sur l'Afrique, il devient Premier ministre en 1964. Son programme, un pouvoir blanc sans concession. Il ne laisse qu'une seule place à la majorité noire du pays, servir les Blancs.
I think first of all, if I may correct your figures, I believe that there are about 250,000 Europeans.
D'abord, je dois vous préciser que nous sommes à peu près 250 000 Européens. Et quant aux Africains, ils ne sont pas 4 millions, mais seulement 3 millions et demi. Alors, vous voyez bien que la situation n'est pas aussi mauvaise pour nous qu'on voudrait le laisser croire. Quant à la représentation ou la non-représentation des Africains au gouvernement, je ne veux pas en entendre parler. C'est un problème qui ne m'intéresse pas.
Face à la menace de sécession des Blancs, Harold Wilson, le Premier ministre britannique, un travailliste, se rend à Salisbury pour une mission de la dernière chance.
Le peuple a réagi de façon très positive à l'arrivée de M. Wilson. Il y avait beaucoup de monde à l'aéroport et 6 à 7 000 personnes dans un pays comme la Rhodésie, 6 à 7 000 Africains, ça paraît, c'est énorme. Il n'y a jamais de manifestation africaine en Rhodésie, jamais au grand jamais. Et puis, pendant même les conversations entre M. Smith et les leaders nationalistes africains, les Africains sont sortis à nouveau de leur village, sont venus manifester devant Government House. C'est à ce moment-là d'ailleurs que la police a usé de méthodes répressives assez dures.
Oui, la police a réagi brutalement ?
Assez brutalement, oui.
Wilson n'arrêtera pas cette indépendance unilatérale. UDI, Unilateral Declaration of Independence. Ces initiales marquent la révolte des Blancs contre la décolonisation entreprise par la métropole. Salisbury coupant les ponts avec Londres, c'est un peu comme si le putsch des généraux avait réussi à Alger en 1958 et si les Pieds Noirs avaient pris le contrôle de l'Algérie contre Paris. En Rhodésie, cette UDI résiste 15 ans.
Cette fois, c'est fait, la Rhodésie a décrété unilatéralement l'indépendance, Bernard Nicot.
C'est M. Ian Smith, le Premier ministre rhodésien, qui a annoncé la nouvelle dans une allocution radiodiffusée. Immédiatement après la proclamation unilatérale d'indépendance, Sir Humphrey Gibbs, gouverneur de la Rhodésie, a annoncé que sur instruction de la reine Elizabeth, M. Smith et tous ses ministres étaient suspendus de leurs fonctions.
Londres est furieuse de cette indépendance unilatérale. L'ONU décrète des sanctions sévères. Nous sommes avec l'historien Hamzad Boukhari Yabara pour cette traversée. Hamzad, qu'est-ce qui a permis à la Rhodésie de ne pas suivre le mouvement de décolonisation du reste de l'Afrique ?
Alors, l'un des éléments qui a permis à la Rhodésie de ne pas suivre le mouvement de décolonisation, c'est le fait qu'il y avait une large autonomie des colons. On est sur une colonie de peuplement et cette large autonomie leur a permis de développer un jeu politique en interne qui, d'une certaine manière, tenait tête à la métropole. Donc ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est que la Rhodésie s'inscrit dans la périphérie et la dépendance à la fois de l'Afrique du Sud, du régime d'apartheid, qui était vraiment le régime solidement implanté au sud du continent africain et qui tenait à bénéficier sur ses flancs occidentaux et orientaux et septentrionaux de pays protecteurs vis-à-vis du reste du continent africain. Donc il y avait une forme, je dirais, d'enjeu stratégique à ce que la Rhodésie ne suive pas effectivement les décolonisations qui venaient du nord du continent africain, notamment dans la lignée de l'indépendance du Congo belge, qui a été aussi marquée au niveau justement de la partie en lien avec les Rhodésies, donc Zambie-Zimbabwe, avec des affrontements assez internes et des risques de sécession, dont le Zimbabwe va aussi, enfin la Rhodésie va aussi être le terrain de jeu.
Mugabe est un enfant de l'école des missionnaires, comme bien d'autres dirigeants africains de cette génération. Or, les missions faisaient partie du système colonial, mais elles ont formé ceux qui allaient les combattre. Est-ce que c'est pas un paradoxe ?
Oui, cela représente en fait les contradictions entre le principe de l'assimilation à travers la colonisation et en même temps la réaction à une assimilation qui propose des illusions qui ne sont pas suivis d'effets concrets. Donc il y a dans le travail des missions déjà une contestation des rites traditionnels africains sur lesquels étaient fondés notamment des éléments de pouvoir. On peut penser par exemple au cas de la circoncision ou au rite d'initiation, si on prend le cas par exemple de Jomo Kenyatta au Kenya, si on compare avec Mugabe. L'autre élément, je pense, important, c'est le fait que les missions vont produire en réaction une forme de christianisme social au niveau de l'Afrique australe, qui est un petit peu l'équivalent de ce que serait la théologie de la libération au niveau de l'Amérique latine. C'est-à-dire l'idée que, effectivement, il y a tout un discours de justice sociale, d'égalité, qui est prôné, mais dans la réalisation matérielle de cette égalité, eh bien, il faut imposer un rapport de force. Et c'est dans ce contexte-là, notamment, qu'on va voir apparaître dans l'Afrique australe un certain nombre de mouvements millénaristes, sectaristes, qui vont reproduire parfois l'organisation des missions, mais s'inscrire en même temps dans des dissidences ou des mouvements de libération.
Alors Robert Mugabe revient dans son pays en se proclamant marxiste. Il n'était évidemment pas le seul dans cette Afrique des années 60, n'est-ce pas ?
Il n'était absolument pas le seul, puisque d'une part, bon, au niveau de l'Afrique australe, on a une présence du communisme dès les années 20 avec le Parti communiste sud-africain. Donc la question du marxisme est posée. On est dans une partie du continent qui a été industrialisée et qui est donc confrontée à la question du capital, la question des classes sociales. Et d'autre part, dans les années 50-60, on est dans le contexte de la guerre froide avec l'enjeu des idéologies de gauche et de droite. Et effectivement, dans les mouvements de libération, dans les processus de décolonisation, l'utilisation du marxisme devient un enjeu important. Et donc Mugabe, comme bien d'autres, on pourrait aussi penser à Nyerere avec sa vision du socialisme africain. On pourrait également penser à certain nombre de leaders au niveau de l'Afrique du Sud et influencés, marqués par le marxisme.
Décolonisation, Pierre Aski, sur France Inter.
Après une décennie en prison, Robert Mugabe est libéré en 1974. Sur ses gardes, Mugabe sait qu'il peut être de nouveau arrêté à la première occasion. Il décide donc de quitter le pays pour rejoindre la guérilla qui s'organise à partir des pays indépendants voisins. Avant de quitter Salisbury, il a un dernier contact avec un mystérieux ami blanc, un juge libéral. La rencontre se fait dans la maison d'une journaliste blanche engagée, Heidi Holland. La jeune femme ne sait pas qui vient dîner chez elle. Elle se contente d'offrir la discrétion et le repas du poulet aux légumes. Dans un livre intitulé « Dîner avec Mugabe », elle raconte que, bien qu'elle soit politiquement libérale, elle n'avait jamais reçu un noir à dîner chez elle.
J'ai été fascinée par son regard d'acier,
écrit-elle dans un livre des années plus tard. Après cet entretien décisif, Mugabe doit prendre la fuite de Rhodésie. C'est la première étape de son plan. À la fin du dîner, le transport du leader nationaliste n'arrive pas. La journaliste Heidi Holland se décide à l'accompagner elle-même à la gare. Elle laisse son nouveau-né seul à la maison. Le lendemain, cet homme en fuite prend le temps de lui téléphoner d'une cabine pour la remercier du dîner et demander des nouvelles du bébé laissé seul. Des années après, elle n'en revient toujours pas. Cet homme aux bonnes manières, cultivé et multidiplômé, va se transformer en chef de guerre pendant les 5 années suivantes. Le point de départ de son plan, c'est le Mozambique. L'ancienne colonie portugaise devient indépendante en juin 1975, dirigée par le Front de libération du Mozambique, le Frelimo, après plus d'une décennie de lutte armée. Mugabe s'engage sur la même voie, à partir du Mozambique et de la Zambie. Les années suivantes sont terribles en Rhodésie. La guerre de libération contre le pouvoir de la minorité blanche prend une ampleur inégalée dans tout le pays. L'armée rhodésienne, encadrée par les Blancs et comprenant des supplétifs noirs, ne recule devant rien. Des villages sont incendiés, des hommes torturés en cas de soupçon de lien avec la guérilla. Les combattants fidèles à Mugabe, comme Nkomo, s'en prennent de leur côté aux fermiers blancs isolés. Pas de pitié là non plus. En Rhodésie, le paysage politique se brouille avec la création d'une nouvelle organisation nationaliste noire dirigée par un religieux, Monseigneur Abel Muzorewa. Dans cette fin des années 70, on compte pas moins de 4 organisations nationalistes noires. 2 sont en exil et engagées dans la lutte armée, la ZANU de Mugabe et la ZAPU de Nkomo. Les 2 autres sont tolérées et même encouragées par le régime blanc qui y voit un rempart contre les nationalistes radicaux. Robert Mugabe, quant à lui, s'impose comme l'un des dirigeants les plus radicaux, inflexibles, impitoyables, mais aussi brillants et séducteurs. La montée de la violence ne décourage pas les leaders blancs. Nous retrouvons Ian Smith. En 1976, il est toujours à la tête de la Rhodésie blanche.
Nous ne voulons pas d'un gouvernement de la majorité noire en Rhodésie. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes prêts à accepter des noirs dans notre gouvernement et à travailler avec eux. Mais je ne croirai jamais à un gouvernement de la majorité noire, jamais, même dans 1000.
Mais la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. En avril 1979, Ian Smith s'essouffle et perd du terrain. Il tente un dernier coup. Il signe un accord avec les 2 leaders noirs dits « modérés » et change le nom du pays en Zimbabwe Rhodésie. Un noir devient même Premier ministre pour la première fois. C'est Monseigneur Abel Muzorewa, le nationaliste modéré, dont le parti a été déclaré légal. Mais on comprend vite qu'il ne s'agit que d'une ruse de Ian Smith, le leader blanc. Il veut diviser les rangs nationalistes et trouver un partenaire complaisant. Personne n'est dupe. C'est trop peu, trop tard. La guérilla redouble alors d'intensité. La situation semble désespérée pour le régime blanc de Salisbury. La loi martiale est instaurée dans la majeure partie du pays avec son lot d'abus, de tortures, de massacres. Les fermes des Blancs deviennent des camps retranchés. Et je me souviens que les avions civils qui osaient encore se poser à Salisbury faisaient une descente rapide, en spirale, tactique militaire pour éviter les tirs de missiles. Il fallait avoir l'estomac bien accroché. Dans ce contexte désespéré, Ian Smith accepte, le dos au mur, la proposition britannique. Négocier avec ses ennemis noirs. Londres est sous pression des pays du Commonwealth. Lord Carrington, le chef de la diplomatie de Margaret Thatcher, fraîchement arrivé au pouvoir, lance les invitations. Il réunit toutes les parties pour une conférence de la dernière chance à Lancaster House, un manoir de style néoclassique dans le quartier St. James, à Londres. On ne donne pas cher de ses chances de succès. Ian Smith espère conforter son accord avec ses alliés modérés, Muzorewa et Sithole, et marginaliser les radicaux que sont Mugabe et Nkomo. En quelques mois pourtant, Lord Carrington parvient à un petit miracle. Le 21 décembre 1979, les partis nationalistes et le régime blanc signent les accords de Lancaster House. La transition pacifique vers un pouvoir de la majorité noire peut se mettre en place. Cette opération extraordinairement complexe est une réussite absolue. J'ai été personnellement le témoin de ces moments incroyables où les guérilleros surarmés sont sortis de la brousse pour être regroupés dans des camps gardés par le Commonwealth, où des héros fatigués ont cessé de s'entretuer, où les ennemis d'hier ont commencé à se parler en êtres humains. Grâce aux accords de Lancaster House, Mugabe et les autres dirigeants nationalistes reviennent en Rhodésie. Difficile de sous-estimer l'émotion de ces activistes partis se battre dans les conditions les plus désespérées qui reviennent en hommes libres pour une campagne électorale. Mugabe, le camarade Bob, comme on l'appelle, est la sensation de Salisbury. Il est l'incarnation du diable pour la plupart des Blancs, mais il se révèle charmeur, pragmatique, drôle. Il a une tranquille assurance, celle d'un homme qui sait qu'il va gagner. J'ai pu interviewer tous les leaders nationalistes de l'époque, Mugabe frappé par son intelligence, sa vision, son charisme. À l'approche du vote, les 14 février et 4 mars 1980, Mugabe réunit les foules les plus importantes. Le leader de la ZANU électrise son auditoire. Il a l'autorité d'un chef. Les résultats tombent, ils sont sans appel. Mugabe remporte la majorité absolue. 57 des 80 sièges de l'Assemblée, Nkomo 20 autres, et Mgr Muzorewa doit se contenter de 3 élus. Les Blancs ont 20 sièges réservés par l'accord de Lancaster House, ils vont tous au parti de Ian Smith. Le résultat du vote est accueilli avec joie par la population. Tout le monde retient son souffle. Mugabe, le radical, a gagné. Non seulement il n'y a pas de panique parmi les Blancs, mais mieux, ils applaudissent. Mugabe a su se montrer pragmatique sur le conseil donné par Samora Machel, le président du Mozambique voisin. Son pays s'était retrouvé en 1975, abandonné du jour au lendemain par les colons portugais, à la tête d'un État désorganisé. Mugabe veut apaiser donc. Il fait savoir à l'avance que s'il est élu, il nommera Dennis Norman ministre de l'Agriculture. Dennis Norman était jusque-là le président du syndicat des fermiers blancs de Rhodésie, l'épine dorsale de la présence coloniale, tout un symbole. Ainsi, dans la nuit du 17 au 18 avril 1980, le Zimbabwe devient indépendant avec Robert Mugabe à sa tête. La Rhodésie a vécu.
Moi, Robert Gabriel Mugabe, jure d'être fidèle et de prêter pleine allégeance au Zimbabwe et de respecter les lois du Zimbabwe avec l'aide de Dieu.
La naissance du nouvel État est célébrée comme il se doit par Bob Marley et son groupe les Wailers au stade d'Harare, le nouveau nom de Salisbury. Bob Marley avait chanté des années durant « We're going to liberate Zimbabwe ». Le jour venu, il a voulu être présent en payant lui-même le voyage de son groupe. Il est aux côtés de Robert Mugabe et d'une centaine de chefs d'État. La foule est telle que la police doit user de gaz lacrymogène pour éviter la catastrophe. Et le vent renvoie les gaz vers Bob Marley. Mais pas de quoi gâcher la fête. Hamzat Boukhari Yabara, vous êtes historien, auteur de Africa Unite. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que Robert Mugabe parvient à s'imposer parmi tous les leaders nationalistes du Zimbabwe ?
Alors, Robert Mugabe est un homme très intelligent, il est très diplômé, il est également très séducteur, charismatique, et il est aussi, je pense, quelqu'un qui sait parfaitement diviser pour mieux régner. Il sait à la fois réunir et diviser. Donc il a beaucoup, je dirais, de vices dans son jeu politique, ce qui lui a permis effectivement de s'imposer dans ce qui était une véritable foire d'empoigne à la tête des mouvements de libération du Zimbabwe. Et ensuite, il a su effectivement contrôler l'appareil sécuritaire, l'appareil militaire, notamment après l'assassinat de Chitepo, et renforcer son pouvoir personnel. Avec, je dirais, beaucoup à la fois d'autorité et en même temps de diplomatie.
Les accords de Lancaster House qui ont été négociés par les Britanniques sont un modèle de compromis historique. Qu'est-ce qui a permis cette solution négociée à une guerre qui était très brutale ?
Alors, c'est effectivement quelque chose d'assez particulier puisque les colons avaient refusé de négocier, d'où la fameuse déclaration unilatérale d'indépendance. Et 14 ans plus tard, on rentre cette fois-ci dans un jeu de négociation parce que d'une part, il y a la crainte pour les colons, pour Ian Smith, de tout perdre. Et de l'autre part, il y a effectivement une guerre de libération menée depuis quelques années qui fait énormément de dégâts, qui frappe l'économie, notamment l'économie agricole, et qui est potentiellement en mesure d'être remportée par les troupes de Mugabe, la ZANU et également la ZAPU. Et Robert Mugabe, à ce moment-là, est hébergé au Mozambique. Et donc, il y a une pression quand même importante de Samora Machel, puisque le Mozambique subit
Samora
des représailles.
Samora Machel, le président du Mozambique.
Exactement. Donc, le Mozambique subit des représailles des mouvements de libération qu'il héberge sur son sol. Et Samora Machel dit clairement à Mugabe qu'il faut aller négocier, que si vous n'allez pas négocier, le Mozambique n'accueillera plus vos troupes. Donc, il y a vraiment cette pression qui est faite sur Mugabe, qui, à l'époque, n'est pas fondamentalement favorable à négocier.
Alors, est-ce que la pression ou les conseils du Mozambique sont aussi ce qui explique l'attitude de Mugabe après sa victoire en 1980? Il se montre pragmatique, très ouvert, y compris à la collaboration avec la minorité blanche. Est-ce que c'est le Samora Machel, le président du Mozambique, qui l'influence?
Alors, le président du Mozambique l'influence probablement. Il faut savoir que le Zimbabwe, la Rhodésie, est un pays dans lequel les notions de compromis sont moins évidentes que dans les pays avoisinants, parce que la diversité, on va dire, raciale est peut-être moins marquée, la dimension ségrégationniste est plus particulière. Mais dans le cas aussi de Mugabe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait une rivalité avec Joshua Nkomo. Et une fois l'indépendance acquise, ce ne sont plus directement les colons blancs qui sont considérés comme les ennemis, mais plutôt les rivalités internes. Donc l'un des enjeux, c'est d'abord consolider le pouvoir dans cette majorité noire, avant peut-être effectivement de toucher aux intérêts directement des colons, surtout qu'on sort d'une période d'accord et de transition. Et donc il ne s'agit pas de remettre en jeu directement ces accords-là, mais plutôt de consolider le pouvoir en interne pour ensuite revenir dans le rapport de force vis-à-vis des colons blancs et vis-à-vis notamment des promesses des Britanniques.
Décolonisation, Pierre Aski sur France Inter.
L'optimisme est donc de rigueur en 1980, lors des premiers pas du Zimbabwe indépendant. La réconciliation des ennemis d'hier paraît possible. De son côté, Ian Smith, qui a dirigé la Rhodésie blanche et voit son pire ennemi l'emporter dans les urnes, a la surprise de recevoir un appel le soir des résultats. Il est invité à venir voir Mugabe chez lui, en pleine nuit. Il s'y rend seul, au volant de sa voiture, un break Peugeot. Mugabe l'attend. Il lui propose de s'asseoir près de lui sur un sofa et lui prend la main en signe de réconciliation. Orian Smith n'a pas digéré la victoire de Mugabe. Il raconte lui-même.
« Je n'aime pas qu'on me tienne la main. J'ai retiré ma main et je suis allé m'asseoir à l'autre bout du sofa. »
Scène étonnante entre deux ennemis implacables et qui se termine lorsque le vaincu refuse symboliquement cette main noire tendue. Ian Smith coulera néanmoins des jours tranquilles en Rhodésie sous le règne de Robert Mugabe, une première sur le continent. Pourtant, ce climat de réconciliation ne dure pas. Les premiers à en faire les frais ne sont pas les Blancs, mais les propres alliés de Mugabe, les partisans de son associé et néanmoins rival, Joshua Nkomo. La répression se concentre sur le Matabeleland, la région du sud-ouest du Zimbabwe, où se trouve la base politique et ethnique de Joshua Nkomo. Celui-ci s'enfuit à l'étranger. Mugabe enrage. Une unité d'élite de l'armée zimbabwéenne se lance dans une campagne contre les partisans de Nkomo. Les estimations font état de 20 000 victimes. 1982, donc. C'est l'année où tout bascule. C'est le tournant autoritaire de Robert Mugabe. Il tourne le dos progressivement à ses promesses de 1980. Le Zimbabwe est sombre. Il devient de fait un régime de parti unique, avec la fusion sous la contrainte de la ZANU et de la ZAPU, les deux mouvements de la lutte de libération. Peu à peu, le régime se durcit avec ses rivaux ou opposants noirs. Les relations se crispent aussi avec la minorité blanche restée dans le pays. Enjeu numéro un, la terre. Partout où des colonies de peuplement ont été créées, la possession des fermes est source de conflits. Au Zimbabwe, 6 000 fermiers blancs contrôlent 40% des terres. Les accords de Lancaster House, qui ont mis fin à la guerre, prévoit que le gouvernement zimbabwéen rachète des terres aux Blancs pour les redistribuer à la majorité noire. Le Royaume-Uni doit, selon cet accord, abonder un fonds destiné à indemniser les fermiers. Mais après des débuts encourageants, rien ne se passe comme prévu. Dans les années 90, la presse londonienne révèle que certaines des fermes expropriées avec l'argent du contribuable britannique ont été donnés à des officiels proches de Mugabe. En 1997, le nouveau Premier ministre britannique, le travailliste Tony Blair, refuse de continuer à payer pour le rachat des terres au Zimbabwe. Mugabe est furieux. À partir de l'an 2000, la question de la propriété des terres devient brûlante. Les confiscations violentes se multiplient. Des fermiers blancs sont assassinés. Mugabe laisse faire. Sabine Mallet, sur France Inter, le 18 avril 2000.
Depuis le début des occupations, une cinquantaine d'actes de violence ont été enregistrés avec la mort d'un policier, de deux fermiers blancs et de deux partisans de l'opposition. Jamais Mugabe, en place depuis 20 ans, n'a déploré ce genre de pratique.
Cette même année 2000, Robert Mugabe veut modifier la Constitution. Il veut permettre l'expropriation des fermes sans indemnisation. Mais son texte est rejeté par les électeurs, un revers auquel il ne s'attend pas. Il se lance dans une fuite en avant. Des groupes d'anciens combattants de la guerre de libération s'organisent et saisissent des terres, assassinent des fermiers blancs. L'exode des blancs s'accélère. Leur nombre passe de 250 000 à l'époque coloniale à moins de 40 000 dans les années 2000. Ce discours anti-impérialiste vaut à Mugabe une certaine popularité sur le continent africain. Mais dans son pays, les conséquences sont dramatiques. Les nouveaux détenteurs des terres n'ont ni le savoir-faire, ni les moyens de les mettre en valeur. La production agricole ne cesse de décliner. Ce pays exportateur de produits alimentaires devient importateur, menacé de famine. La baisse dramatique du niveau de vie, l'hyperinflation et le chômage de masse poussent des centaines de milliers de Zimbabwéens à fuir en Afrique du Sud voisine. Le tournant totalitaire du régime se manifeste aussi sur le terrain politique. Réélu sans difficulté depuis l'indépendance, Robert Mugabe se retrouve en 2008 dans une situation inédite. Il a en face de lui, à l'élection présidentielle, un opposant crédible, Morgan Tsvangirai. Cet ancien syndicaliste, à la tête du Mouvement pour le changement démocratique, fédère une partie de l'opposition. Mugabe est réélu, mais dans des conditions que même ses pairs africains jugent non conformes aux normes de l'Union africaine. Il est désavoué par l'organisation panafricaine et des sanctions sont imposées. Mugabe accepte l'année suivante de nommer Tsvangirai Premier ministre, un compromis négocié par l'Union africaine. Mais il ne partagera jamais l'autorité. Le caractère autoritaire et paranoïaque du pouvoir de Robert Mugabe s'accentue. De nombreux Zimbabwéens y voient l'influence de sa seconde épouse, Grace. Sally, la première femme de Robert Mugabe, qu'il avait connue alors qu'il était enseignant au Ghana, disparaît en 1992. En 1996, le président épouse Grace Marufu, sa secrétaire, de 41 ans plus jeune que lui, et dont il était de notoriété publique qu'elle était sa maîtresse. Grace Mugabe prend de plus en plus de place dans l'entourage du chef de l'État. Et elle fait scandale en multipliant les voyages de shopping à l'étranger alors que le pays s'enfonce dans la crise économique. Les Zimbabwéens la surnomment Gucci Grace, la première acheteuse plutôt que première dame. Le président vieillit. La question de sa succession commence à agiter les cercles du pouvoir. Lorsque la vice-présidente Joyce Mujuru est limogée en 2014, les Zimbabwéens unanimes y voient la main de Grace. La première dame se positionne pour prendre la suite de son mari à sa mort. En 2017, Robert Mugabe a 93 ans et sa santé est déclinante. Grace fait connaître son ambition de lui succéder. Réaction d'un responsable d'ONG à Harare au micro de RFI.
Les Zimbabwéens en ont assez. Ils sont révoltés par cette manière de vouloir imposer une sorte de dynastie à la tête de l'État. Les habitants n'ont pas du tout apprécié l'ascension de la Première Dame, qui a affiché de manière ostentatoire sa volonté de prendre en main le pays.
Les événements se précipitent. Le vice-président Emmerson Mnangagwa est limogé à son tour le 4 novembre 2017. Deux jours plus tard, Mugabe annonce qu'il va nommer son épouse à ce poste clé pour lui succéder un jour. Mais cette fois, c'en est trop. L'armée entre en lice le 15 novembre. Le président et sa femme sont placés en résidence surveillée et l'armée assure la sécurité dans les rues. Mugabe refuse de se considérer déposé, mais la rue n'attend pas pour célébrer la chute du dictateur après 37 ans au pouvoir.
Je suis de son parti, mais il est grand temps que Mugabe s'en aille, et dès maintenant.
Nous sommes fatigués de ce Mugabe. Il doit partir, personne ne l'aime.
Des manifestations historiques jamais vues depuis l'indépendance du pays en 1980. Aujourd'hui, un sentiment nouveau de liberté souffle sur le pays. Le parti du président doit se réunir demain matin pour discuter de la démission du plus vieux chef d'État encore en exercice.
Il faudra attendre une semaine encore pour que Robert Mugabe comprenne que c'est fini. Le 21 novembre 2017, il publie une lettre de démission. On assiste au soulagement d'une population qui n'a eu qu'un seul président depuis l'indépendance.
C'est fini, nous en avons fini avec Mugabe et son oppression. Oui, nous étions confiants, mais nous commencions quand même à sentir l'espoir décliner un peu. Mais maintenant, c'est la victoire, enfin.
Les militaires et la direction du parti dominant remettent le pouvoir au vice-président déchu quelques jours plus tôt, Emmerson Mnangagwa. Pas vraiment un homme nouveau. Il a déjà 78 ans lorsqu'il devient numéro 1. Il a été un compagnon de Mugabe pendant la lutte de libération, puis un homme clé du pouvoir dès le début. Il a notamment joué un rôle important dans la répression sanglante des partisans de Joshua Nkomo au début des années 80. Mais le nouveau maître du pays prononce des paroles apaisantes. Il promet le changement sans pour autant désavouer l'ère Mugabe à laquelle il est lié. De manière significative, il lance à son tour une invitation aux fermiers blancs à revenir au Zimbabwe. Robert Mugabe, lui, ne survit pas longtemps à sa destitution. En privé, dans sa retraite forcée, il estime avoir été trahi. Il est déçu et amer, selon ses proches. Il ne décolère pas contre les chefs militaires et contre son ancien vice-président, désormais à sa place. En 2018, il fait même savoir qu'il votera pour le candidat d'opposition contre Emmerson Mnangagwa. Mais plus personne ne l'écoute. Sa santé décline. Il est transféré à Singapour pour des soins médicaux. Avant de quitter le Zimbabwe, il participe à un service religieux. L'ancien élève des jésuites n'a jamais renoncé à sa foi. Il s'éteint loin de chez lui, à Singapour, le 6 septembre 2019, avant d'être inhumé dans son village natal de Kutama. Dans son livre « Dîner avec Mugabe », publié avant la chute du dictateur, la journaliste Heidi Holland se posait la question.
Robert Mugabe avait le monde à ses pieds en 1980. Mais lentement, inexorablement, il a ruiné l'œuvre de sa vie, trahi les gens qui avaient confiance en lui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a conduit à cette autodestruction ?
Elle se demande si le Zimbabwe aurait pu échapper à cette descente aux enfers, si le monde avait réagi plus vite aux premiers signes de paranoïa, ou si les Blancs avaient été plus réalistes plus tôt. Ou bien, se demande Heidi Holland, Mugabe est-il simplement
un exemple de la manière dont le pouvoir corrompt ?
Les Zimbabwéens n'ont pas les réponses à ces questions, mais ils ont un pays à reconstruire. Nous retrouvons l'historien Hamzat Boukhari Yabara, auteur d'une histoire du panafricanisme. Alors je vous pose la question que pose Heidi Holland dans son livre « Dîner avec Mugabe ». Est-ce que Mugabe est simplement un exemple de la manière dont le pouvoir corrompt ? Quel regard portez-vous sur cette dérive du pouvoir de Mugabe ?
Alors, je dirais que Mugabe est un personnage qui a une longue trajectoire. Il a vécu plus de 90 ans. Il a connu plusieurs périodes dans sa vie, dans sa trajectoire. C'est important de rappeler qu'il a été effectivement prisonnier politique, il a été exilé, il a mené une guerre de libération. Et c'est quelqu'un qui a nourri probablement beaucoup d'amertume et d'illusions vis-à-vis du système, qui a été confronté à des refus de négociations et des négociations imposées. Et qui a ensuite été confronté, je dirais, à une forme de paranoïa, une fois au pouvoir, qui n'a cessé de se développer, et qui est aussi effectivement la problématique de la conservation du pouvoir. Je pense que Mugabe, son pouvoir a été corrompu par également son entourage, je pense que c'est important de le rappeler, par également des choix politiques ou économiques qui n'ont pas été très heureux. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il représente une forme de corruption du pouvoir, mais en même temps, il représente aussi les limites de ce que un pouvoir émancipateur pouvait réellement obtenir dans le contexte d'un pays comme le Zimbabwe à cette époque-là. Mmh.
Alors justement, la question des terres est au cœur de toute cette problématique. C'est même un tournant dans le long règne de Mugabe. Alors on peut blâmer l'héritage colonial ou la manière dont Mugabe l'a géré. Avec le recul, qu'en est-il selon vous ?
Alors, il y a une problématique de l'héritage colonial qui me semble importante et qui explique une partie des difficultés qu'a rencontré Mugabe. Et puis l'autre partie, c'est effectivement la manière dont son pouvoir a été aussi captif de ce qu'on pourrait appeler le syndicat des anciens combattants, le syndicat des vétérans, et une redistribution des terres qui s'est faite en partie conformément aux accords, puis ensuite indépendamment des accords, qui a permis l'apparition d'une bourgeoisie, foncière, militarisée, qui n'a pas permis au Zimbabwe de maintenir ce qui faisait sa réputation, c'est-à-dire une forme d'autosuffisance alimentaire à cette époque-là. Donc la question des terres, elle est effectivement le reflet, la vitrine de sa difficulté à opérer une véritable indépendance économique, politique, mais aussi idéologique du Zimbabwe, puisqu'on va faire justement de la question des terres l'élément central du clivage politique et faire effectivement du colon blanc la figure un peu diabolisée qui elle-même diabolisait Mugabe. Donc je pense qu'il y a dans cet héritage des terres, de la question des terres, une véritable problématique qu'il faut aussi mettre en relief avec la manière dont elle a été gérée en Afrique du Sud, où là on a eu justement une notion de compromis différente que celle qui a été mise en place au niveau du Zimbabwe.
Alors, Mugabe a certainement le bilan le plus négatif de tous les dirigeants issus de ces luttes de libération en Afrique australe. Quelles leçons l'Afrique peut-elle en tirer ?
Alors, la particularité de Mugabe, c'est qu'il a probablement aussi le règne le plus long de tous les dirigeants d'Afrique australe. Donc, c'est déjà la problématique de la conservation du pouvoir et de l'incapacité à renouveler une idéologie, un système autrement que par la répression et par la torture ou l'emprisonnement des opposants. Donc ça, c'est un premier élément qui est à souligner. Un autre élément, c'est quand même rappeler que le Zimbabwe a été aussi le terrain des politiques d'ajustement structurel dans les années 80-90, et que la crise économique, l'inflation, la gestion de l'économie est un élément qui, je dirais, caractérise davantage le bilan négatif de son règne, mais qui ne lui est pas imputé à titre personnel. Il y a eu, je pense, au niveau du Zimbabwe, une dépendance à l'aide étrangère, notamment américaine, britannique, canadienne, et une forme de chantage vis-à-vis justement de son autoritarisme qui pose aussi quand même la question de la responsabilité de la communauté internationale, puisque Mugabe, pendant une période, au milieu des années 80, milieu des années 90, c'était quand même une figure très appréciée, très réputée dans la communauté internationale, qui était une des figures les plus importantes du Commonwealth. Mais lorsque Mandela est libéré de prison et que l'Afrique du Sud reprend un peu le leadership dans la région, eh bien on fait ce parallèle entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, et on va régulièrement comparer les trajectoires des deux pays, avec une qui réussit cette étape de la réconciliation, donc l'Afrique du Sud, et l'autre qui s'enferme effectivement dans un autoritarisme dont on ne peut nécessairement tenir Mugabe comme étant l'unique responsable. Donc c'est aussi la difficulté de penser la transmission intergénérationnelle du pouvoir, puisque il va être remplacé par l'un de ses fidèles lieutenants, qui était d'ailleurs son ancien vice-président, qui appartient quasiment à la génération suivante, qui est une génération également très avancée.
Merci Hamzat Boukhari Yabara. Chiwonisa Obarer, artiste zimbabwéenne, disparue à l'âge précoce de 37 ans, magnifique interprète de mbira, un instrument traditionnel. Décolonisation, une émission de France Inter. Chargée de programme, Fanny Leroy. Stagiaire, India Venmani. Documentation, Anne-Lise Signoret, Ingrid Lecointe et Antoine Villoz. Lecture, Esa Botto. Prise de son, Lison Berger, Thomas Ragano. Mixage, Guillaume Ledu. À la réalisation, Hélène Bizio.
I'm still giggling.